Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Non, j'étais très content.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct et face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel. Bonsoir.
Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir Lionel, bonsoir Geoffroy.
Très heureux de vous retrouver tous les deux. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la France, tu l'aimes mais tu la quittes, vous allez comprendre. Pas de préférence nationale pour les HLM. L'Europe a ouvert la porte au djihad selon Donald Trump. On va traiter tous ces sujets. Mais d'abord, la mobilisation des étudiants pro-Gaza avec un rassemblement au Panthéon à Paris aujourd'hui, après que les forces de l'ordre soient intervenues aussi à Sciences Po, encore occupées par des étudiants qui protestent contre la guerre dans la bande de Gaza. D'autres mobilisations ont également eu lieu en France aujourd'hui. C'est l'histoire qui recommence, encouragée notamment par la France insoumise, comme le député Aymeric Caron.
Heureusement, ces étudiants sont la fierté de la France. Et ils font ce que bon nombre de politiques ne font pas depuis plus de 6 mois, c'est-à-dire alerter l'opinion sur la gravité de ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est-à-dire un génocide en cours avec une diplomatie française absolument inactive. Heureusement que ces étudiants sont là pour remuer les consciences. Et nous sommes absolument choqués, outrés, que des messages soient envoyés par des membres du gouvernement pour présenter ces étudiants comme des incultes, des irresponsables, voire des antisémites, alors qu'il n'y a aucun antisémite dans l'action qui est menée actuellement pour simplement réclamer que le droit international soit appliqué à Gaza.
C'est donc la jeunesse qui montre le chemin, Geoffroy Lejeune. C'était un appel à la révolte, mais en tout cas une jeunesse qui est dans le droit chemin et qui met le pays dans le droit chemin, si j'en crois ce que dit Aymeric Caron.
C'est marrant parce que ça, moi j'ai un tempérament assez calme normalement, mais là il m'énerve vraiment tous. Normalement je pense avec pas mal de distance et là j'ai un peu de mal. Ce qui me choque le plus, c'est qu'il n'y ait pas de réaction, en fait. Que ces étudiants soient considérés comme des gens intelligents avec qui on peut discuter, etc. Mmh. Alors que c'est juste des gens à qui il a manqué une éducation, en fait, tout simplement. Et qui, aujourd'hui, ne reçoivent aucune réponse de la part des autorités, soit de leur renseignement, soit du gouvernement, en tout cas pas assez forte. Ils auraient dû, pour la plupart, être virés, en fait, et repartir à zéro dans leur cursus, faire autre chose. Enfin, être traités comme ce qu'ils sont, en fait, c'est-à-dire des gens peu respectables. Et par ailleurs, et c'est drôle, hein, ils sont pas antisémites, il y a pas d'antisémitisme, etc. Je suis désolé, tout ça est en fait documenté. Il y a un rapport au réel chez la France insoumise qui est quand même assez étonnant. Et après, je suis très énervé aussi par la France insoumise, espèce de pyromanes, de pacotilles qui viennent souffler sur des micro-braises. Enfin, tout ça est grotesque. Moi, j'ai honte, en fait. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte, en fait, parce que on est en train de donner une image de notre pays à nous-mêmes et aux gens qui nous regardent depuis l'étranger, qui objectivement fait un peu de peine.
Il y a la forme, on parlera du fond dans quelques instants, parce que ce qui est dit, ou en tout cas ce qui est revendiqué, peut-être avoir du sens, on va en parler dans quelques instants, mais juste pour rester sur la réaction après l'occupation notamment de Sciences Po, Philippe Guibert, je rappelle que la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, a demandé au président d'université de veiller au maintien de l'ordre en utilisant l'étendue la plus complète des pouvoirs dont il dispose. En gros, débrouillez-vous. C'est ça que ça veut dire. Pardon.
Ça veut dire que vous avez même le droit de sanctionner.
C'est à vous de faire la sécurité, en tout cas, mais pas à l'État.
On ne peut pas dire que la ministre ait été à la pointe de la fermeté, de l'autorité dans toute cette affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à Sciences Po spécifiquement, là, le fameux town hall, puisque ça fait très chic à Sciences Po, d'utiliser le vocabulaire américain, ce serait trop ringard de parler de réunion ou de débat. Il faut faire un town hall. Donc il n'a rien donné. C'est ça l'échec de l'administration provisoire de Sciences Po, qu'on peut regretter. Mais enfin, le fait est que cette réunion qui était censée apaiser les esprits ne les a pas apaisés, et qu'à un moment donné, il a fallu en venir à des formules plus fermes et plus autoritaires. Moi aussi, je suis extrêmement agacé par les filles. En particulier par Monsieur Caron. c'est des gens qui n'ont fait que souffler sur les braises depuis le 7 octobre. Alors, si on veut être pour l'ensemble de leur œuvre, ils avaient soufflé sur les braises aussi pendant les émeutes de banlieue en juillet dernier. Ils avaient soufflé sur les braises alors qu'on avait des manifestations au départ tout à fait calmes pendant la manif des retraites. Bref, leur fonction est de souffler sur les braises. Je trouve ça totalement irresponsable. Et en plus, contrairement à ce que dit ce député et les filles, les étudiants qui se sont mobilisés là ne sont pas mobilisés pour trouver, pour peser sur une paix possible entre Israël et les Palestiniens à travers des solutions politiques. On peut souhaiter, enfin, en tout cas, moi je souhaite. Non, ils ont repris des slogans venus des campus américains, parce que tout ça est quand même d'un mimétisme américain absolument invraisemblable, et qui consiste à nier la légitimité d'Israël. Or, pour trouver une solution politique où on puisse avoir un jour l'espoir que la paix revienne en Palestine et en Israël, commencer par nier la légitimité d'un des acteurs du drame, de la tragédie, c'est un peu compliqué. Donc ce n'est pas des gens qui cherchent à peser et sensibiliser l'opinion publique, sans quoi je pourrais les comprendre. Ils cherchent à attiser les détestations à l'égard de l'État d'Israël. Mais on peut être tout à fait critique à l'égard du gouvernement d'Israël, je le suis, mais pas remettre en cause la légitimité de l'État d'Israël. Ouais. Or, c'est ça leur discours. Si vous suivez leur icône, Mme Rima Hassan, en 7e position sur la liste de LFI, ses tweets sont à longueur de journée et de semaine une remise en cause de la légitimité d'Israël. On considère que l'Israël ment par nature et est illégitime par nature.
Bien sûr. Mais ce qui est dit aussi, Geoffroy Lejeune, tout ce que vient de préciser Philippe Guibert est juste, évidemment, et chacun se fera son opinion, en effet, c'est le point de vue de chacun, et voilà pourquoi la parole est libre, et nous sommes en direct dans cette émission. Mais n'y a-t-il pas tout de même un vrai massacre qui est en train de se dérouler dans le cadre de la population de Gaza? C'est-à-dire qu'il y a des femmes et des enfants, et c'est ça que pointe du doigt le député Cabron, c'est ça que pointe du doigt aussi beaucoup d'étudiants qui se sont mobilisés. Alors certes, il y a la méthode et la forme qui sont répréhensibles, mais sur le fond, n'y a-t-il pas une part de vrai?
Si, bien sûr, mais en fait, c'est vraiment pas le sujet.
Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer le droit international? C'est peut-être ce qui est demandé aussi à la France en disant arrêtez de massacrer des populations civiles. En fait, c'est ça, en gros.
Lionel, je pense que vous avez raison, mais je pense que c'est pas ça qu'ils sont en train de dire. C'est pas ça, c'est pas du tout l'objet de leur mobilisation. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire, tous les esprits sensés l'entendent, le disent. Il y a évidemment un débat là-dessus qui est possible, et c'est pas ça qui est en cause. En fait, là aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils sont en train de faire. C'est juste une jeunesse bourgeoise qui s'achète une petite période de révolution avec les on a les révolutions qu'on mérite. Hein. Bah, eux, c'est ça, ils sont en train de le faire en ce moment. L'objet de leur mobilisation, c'est la remise en cause de l'autorité absolue partout, tout le temps. C'est pas du tout la population gazaoui. C'est pas leur sujet. C'est pas pour ça qu'ils se réveillent le matin. C'est leur prétexte. C'est un peu différent. Est-ce qu'ils sont en train de servir la cause palestinienne? Pas du tout. Je pense objectivement que tout ce qui se passe dans les campus américains ou en France n'aidera jamais la population.
Ils n'ont pas de poids.
Bien sûr, voilà. Évidemment, mais aucun.
Aucun.
Ils caricaturent les voix les plus mesurées que j'ai pu entendre sur le sujet. Il y a beaucoup de gens très intelligents, très intéressants qui défendent ce que vous avez dit, et ils n'ont pas besoin de mettre des keffiers palestiniens dans les rues en interdisant l'amphi Boutmi à des étudiants juifs. Voilà, donc on est dans autre chose en fait. Et ensuite, moi je pense, si vous voulez, ce qui me choque le plus en réalité, parce que je pense que ça n'a rien à voir avec Israël tout ça, ce qui me choque le plus, c'est qu'on n'oppose rien à cette manière de faire. Ce sont des gens, ils auraient dû en fait, ils auraient dû avoir une réponse ferme. Je vous dis, on aurait dû en virer pour l'exemple, on aurait dû les obliger. En fait, rien de ce qui s'est passé ne va dans le bon sens. Vous connaissez ici mon tropisme pour la Légion étrangère. J'en parle souvent parce que je trouve qu'il y a beaucoup de en fait, il y a un modèle entre guillemets éducatif dans l'armée en général et dans la Légion étrangère en particulier. Il se trouve que j'y étais cette semaine pour la fête de Cameroun, donc c'était la grande fête annuelle de la Légion étrangère. J'étais au bagne, absolument.
Dans les Bouches-du-Rhône.
Dans les Bouches-du-Rhône, chez vous. Et à chaque fois, je suis ébahi par ce que je vois, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que ça devrait pas marcher et ça marche très bien, parce qu'en fait, il y a des principes qui sont appliqués qui sont éternels. Et ben, c'est exactement ce qui manque, en fait. Il aurait dû y avoir une réponse politique, il aurait dû y avoir une réponse de la direction de l'établissement. On aurait dû, en fait, les déloger, leur montrer ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire, en fait, pardon, mais des gosses, en fait, qui n'ont pas de légitimité à faire quoi que ce soit de ce qu'ils ont fait, à bloquer, à manifester, etc. Et leur faire payer pour leurs erreurs. Peut-être que là, ça aurait été leur rendre service.
Je vous fais réagir, Philippe Guibert, mais d'abord, dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui et ce sujet qui nous occupe ou qui nous préoccupe le plus exactement, c'est vrai que les étudiants juifs et les juifs de France en général sont pris au piège dans cette mobilisation totalement politisée. Écoutez Samuel Lejoyeux à ce sujet.
Qu'il y ait des mobilisations étudiantes, le gouvernement gère comme il veut la question de la mobilisation étudiante, CRS, pas CRS. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que ces mobilisations viennent couvrir le fait qu'il y a de l'antisémitisme qui vient du fait que les étudiants juifs sont pointés du doigt comme complices de génocide et ça enlève toute possibilité d'étudier sereinement en tant que juif dans les facs en France.
Y a-t-il donc dans ces mobilisations, ces manifestations, et pas qu'à Paris d'ailleurs, des relents antisémites ou plutôt antisionistes, Philippe Guibert ?
Oui, mais on sait bien que l'antisionisme tourne vite ou peut tourner dans un certain nombre de cas assez vite à l'antisémitisme. Et ce que dit Samuel Lejoyeux qu'on entendait à l'instant, c'est que des étudiants juifs ne se sentent pas ni très à l'aise ni très en sécurité, que ce soit à Sciences Po ou dans d'autres lieux d'enseignement, ce qui est inacceptable. C'est inacceptable. Et donc, je le disais déjà la semaine dernière, mais moi, je me souviens d'une époque qui renvoie à ma jeunesse étudiante où on pouvait aller à des manifs sur la Palestine où juifs et arabes pouvaient être présents. C'est pas exactement le même état d'esprit, vous voyez. Et c'est pour ça que je redis que ces braves gens qui sont mobilisés, qui ont occupé, ils ne sont pas pour une solution politique qui amène la paix et le compromis. Ils sont pour une solution qui exacerbe complètement les conflits en déniant la légitimité et en accusant explicitement ou implicitement les étudiants juifs d'être finalement complices de ce que fait le gouvernement israélien, qu'on peut critiquer par ailleurs en effet, et que beaucoup critiquent en disant que ce gouvernement est devenu un obstacle à la recherche d'une solution politique. Et donc tout ça est tout à fait inacceptable. On ne peut pas accepter dans notre pays, comme dans des campus américains. Au passage, Sciences Po fait beaucoup de choses en commun avec Columbia, qui a été le cœur de la mobilisation américaine, universitaire américaine, qui est à New York, qui est une université new-yorkaise. Et donc, il y a beaucoup de ponts entre ces deux universités. Il y a même des organisations à Sciences Po qui ont repris les noms de celles qui étaient à Columbia. Donc, et on sait très bien qu'à Columbia aussi et dans d'autres universités américaines, il y a eu des menaces sur des étudiants juifs, il y a eu des accusations, et tout ça est parfaitement inadmissible. Et là, je rejoins complètement Geoffroy, ces gens ne servent pas la cause palestinienne, ils la desservent profondément. L'antisionisme radical qui charrie de l'antisémitisme, parfois, on ne va pas dire systématiquement, mais on va dire parfois, eh bien, dessert complètement la cause palestinienne. Parce qu'il n'y aura pas de cause palestinienne sans une solution à deux États, qui est déjà très, très compliquée. Donc, si on commence par mettre en cause l'existence même d'Israël ou la légitimité même d'Israël, on ne peut pas y arriver. Et donc, on ne débouche sur rien d'autre que de l'affrontement. Oui. Et la preuve, pardon de d'y revenir, c'est qu'à Sciences Po, la direction, l'administration provisoire a accédé à la demande d'un débat appelé Town Hall, mais que ce débat n'a débouché que sur une reprise de l'occupation de Sciences Po. Donc ce sont des gens qui sont très minoritaires, mais ce sont des gens qui veulent un débat, mais après le débat, oui, ils veulent toujours avoir raison. C'est-à-dire qu'ils continuent
un débat qui tourne en leur faveur.
Un débat, si ils n'acceptent pas un débat comme s'il tourne en leur faveur. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est une conception de la démocratie assez particulière.
N'est-ce pas ? J'aimerais que l'on évoque maintenant, toujours dans cette partie de Ça se dispute, un livre choc à succès, mais qui fait polémique. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. L'ouvrage met en lumière l'augmentation des expatriations de Français musulmans, des personnes qui sont pourtant diplômées, mais qui auraient quitté le pays victimes de discrimination ou pour fuir l'islamophobie ambiante. Explication de Michael Dos Santos.
Il s'appelle Mourad, Ilad ou encore Samira. Tous sont français, musulmans et seraient détenteurs pour plus de la moitié d'entre eux d'un bac plus 5. Tous auraient décidé de s'expatrier, stigmatisés à cause de leur religion ou encore discriminés à l'emploi. C'est le cas d'Abdel, aujourd'hui directeur financier à l'étranger.
En France, j'ai envoyé 70 CV, personne ne m'a répondu. J'ai passé la frontière au Luxembourg, j'ai déposé 3 CV et j'ai eu 3 entretiens.
Les trois auteurs de « La France, tu l'aimes mais tu la quittes » affirment que 68% des personnes interrogées attribuent leur départ à l'islamophobie. Ce constat se base sur zéro donnée de l'INSEE, uniquement 139 entretiens et un questionnaire posé à plus de 1000 personnes, sélectionnées sur la base d'un appel à témoins publié sur Mediapart. Une méthodologie remise en question par cet anthropologue.
Julien Talpin, Olivier Estève et leurs consoeurs ont décidé donc de mobiliser les réseaux du collectif contre l'islamophobie, des individus qui sont convaincus d'être finalement des victimes de l'islamophobie.
L'impartialité de deux des auteurs laisserait-elle aussi à désirer ? Olivier Estève était membre du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, dissous en 2020 pour sa proximité avec l'islamisme radical. Julien Talpin a également collaboré avec l'association Alliance Citoyenne.
Une association qui a beaucoup milité pour le burkini et disons l'expression religieuse islamiste dans l'espace public.
Depuis sa sortie, les auteurs ont reçu le soutien des musulmans de France, mouvement lié aux frères musulmans.
La France, tu l'aimes ou tu la quittes. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Et évidemment, la petite phrase, le petit mot qui fait la différence avec la référence d'abord d'un slogan du Front National, puis repris un petit peu plus tard par Nicolas Sarkozy, puis le titre de ce livre qui semble être une enquête sérieuse, mais peut-être orientée. Est-elle vraiment partiale? Est-ce qu'on peut le dire, Geoffroy Lejeune?
Bah oui, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire, cette histoire. En fait, vous avez sous les yeux, le sujet a été très très bien fait, vous avez toutes les données du problème. Vous avez zéro données statistiques fiables comme on travaille habituellement.
Exactement.
Pour faire ce genre de...
Ce sont des témoignages qui ont été recueillis.
Vous pouvez faire ce que vous voulez avec des témoignages, mais vraiment ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est même parfois une des limites de l'exercice journalistique, c'est quand vous avez que des témoignages qui vont dans un sens et que vous n'avez pas de données scientifiques. Dans ces cas-là, on essaie de...
S'il n'y a pas de contradiction, c'est difficile d'avoir une démarche journalistique.
Exactement.
On est d'accord. Très bien.
Donc on est aux antipodes de ça. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, la troisième chose, c'est, ça me fait penser, on a été un peu discret sur cette affaire, l'affaire des deux journalistes qui avaient été condamnés pour avoir financé du terrorisme parce qu'elles avaient essayé de venir en aide à des Français qui étaient partis faire le djihad. C'est les mêmes gens, en fait. Ils ont la même façon de penser, la même façon de travailler, etc. Là, en l'occurrence, ils sont en train de tenter d'apporter un vernis ou un crédit pseudo-scientifique à la rhétorique des frères musulmans, le CCIF était cité notamment. En fait, ce sont des gens, les frères musulmans, qui ont inventé eux-mêmes le concept d'islamophobie.
Absolument.
Et d'islamophobie d'État.
Absolument.
Pour essayer de faire passer dans les opinions publiques occidentales, en l'occurrence la France dans le cas présent, l'idée qu'il y aurait une islamophobie qui empêcherait les musulmans d'être heureux. Pourquoi ? C'est pour empêcher l'assimilation de la communauté musulmane à la communauté française, et c'est pour la radicaliser, la faire rester dans le giron de l'islam. Et aujourd'hui, vous avez trois chercheurs, je mets des gros guillemets, qui viennent apporter leur pseudo-crédit à cette théorie. C'est absolument magnifique. En termes de subversion, c'est exceptionnel. C'est vraiment c'est l'objectif des frères musulmans. D'ailleurs, je me permets d'annoncer un peu à l'avance, mais c'est un gros sujet pour Gérald Darmanin, pour le ministère de l'Intérieur, leur influence, la manière dont ils se développent. Et je le sais parce qu'on en parle dans le JDD de dimanche prochain. Mais là, c'est un crédit exceptionnel apporté à cette entreprise.
Voilà, et ça nous pousse à poser la question. D'ailleurs, c'est écrit en bas, comme à la télévision, hein, bien sûr, sur CNews. La France est-elle islamophobe ? On se pose cette question, en effet, avec des sujets comme cela, avec des livres comme cela. Alors que, Philippe Guibert, il y a des musulmans qui quittent le pays, mais il n'y a pas que les musulmans qui quittent le pays. C'est-à-dire que la fuite des cerveaux, malheureusement, elle existe pour plein de raisons, notamment pour des raisons fiscales. Il y a des gens qui vont aller travailler aux États-Unis, des chercheurs, parce qu'ils seront mieux payés. Et à l'inverse, il y a aussi des musulmans qui occupent des postes de très très grande qualité et de très haut niveau aujourd'hui en France. Les médecins, à commencer par des médecins.
Absolument. Ouais. Mais c'est bizarre. Enfin, Geoffroy a évidemment raison. Le mot islamophobe et islamophobie vient des frères musulmans. Et donc c'est toute une construction idéologique pour dire que les musulmans doivent pouvoir vivre dans leurs pratiques les plus rigoristes et les plus intégristes contre un État républicain laïque qui est islamophobe par nature. Donc, est-ce que c'est un pays islamophobe, la France ? On est le pays européen qui a la plus grande population musulmane. Alors, on ne l'évalue pas avec précision parce qu'il n'y a pas de statistiques ethnico-religieuses dans notre pays. Enfin, les enquêtes qui sont faites disent entre 5 et 6 millions en général. Mmh. On est le pays européen qui a construit le plus de mosquées. Didier Lesky, qui est le directeur de l'Office des migrations, en France, ne cesse de répéter cet élément-là. On est le pays européen qui a construit le plus de mosquées. Et puis, dernier point, quand on regarde les actes anti-religieux ou xénophobes ou racistes, les actes anti-musulmans, Il y en a toujours de trop, hein, on est bien d'accord. Hein, mais c'est arrive en tout dernier, alors même que la population musulmane est de 5 à 6 millions, et comparé aux actes antichrétiens qui sont très nombreux dans notre pays, et plus encore, hélas, ce qui est terrible, les actes antisémites pour une population, elle, qui représente 600 000 personnes, environ 0,6% de la population française. Donc dire que c'est un pays islamophobe est évidemment une manipulation idéologique. Il peut y avoir en France, comme ailleurs dans d'autres pays, et pas que dans des pays européens, loin de là, évidemment qu'il peut y avoir du racisme. Mais dire qu'on est dans un pays islamophobe, alors qu'en 30 ans, 30, 40 ans, on est devenu un pays où il y a 5 à 6 millions de musulmans qui peuvent pratiquer leur religion dans la tranquillité et le respect de leurs pratiques, c'est quand même une très mauvaise blague.
Et cela verse au débat polémique de la France est-elle raciste aussi ? C'est la question que beaucoup peuvent se poser. Il y a eu cette polémique, vous le savez, depuis mercredi avec la journaliste d'Arrêt sur Image, Nassira El-Mouadem, qui est d'ailleurs la cible maintenant de menaces en ligne parce qu'elle s'est indignée des règles strictes de la Fédération française de football par rapport au port de casques et de collants, notamment comme c'est écrit dans le Coran, enfin en tout cas comme c'est pratiqué dans l'islam. En effet, et voilà ce qu'elle a dit, pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte. Avec un autre poste d'ailleurs, Geoffroy Lejeune, sur X, elle a confirmé ces propos-là. Elle ne les a pas démentis, elle ne s'est pas excusée. Mais toute cette ambiance, toute cette atmosphère, le livre dont on parle, cette affaire également avec ses tweets ou ses posts et ses messages, contribue à créer une dimension où on s'interroge en se demandant est-ce que vraiment la France est raciste.
Mais il ne faut pas se laisser avoir en fait. Par exemple, dans le cas de l'affaire Nassira El-Mouadem, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Elle a choisi délibérément d'insulter la France. Libre elle, hein, après tout, c'est pas illégal dans ce pays d'insulter la France. Et derrière, elle vient chouiner parce qu'elle a eu des messages, des menaces de mort qu'elle a elle-même provoquées en étant extrêmement.
Ce qui fit pas, hein, quand même.
Non, je sais, mais alors, moi, je vais parler des menaces de mort très rapidement. En fait, on a tous des menaces de mort. Faut arrêter le délire, faut arrêter d'expliquer que c'est que elle parce que on a été très méchant avec elle, etc. Non, non, pas du tout. En fait, dès que t'es une personnalité publique et que tu t'exposes, que tu donnes ton avis, etc., t'as des menaces de mort. Moi, j'ai des menaces de mort tous les jours. Est-ce que tu m'as déjà entendu chouiner parce que la France insoumise ou des islamistes radicaux me menaçaient de mort? Non, en fait, ça fait partie du job. C'est pas agréable. Parfois même, c'est dangereux et il faut se protéger évidemment. Et je ne le justifierai jamais ni pour elle ni pour personne. Mais en l'occurrence, pardon, elle a commencé, elle a décidé toute seule d'aller sur ce terrain-là. Un pays qui se laisse insulter comme ça par une journaliste, est-ce que vous croyez vraiment, sincèrement, qu'il a théorisé dans sa structure, dans son appareil d'État, etc., le fait que qu'il fallait une islamophobie d'État ou un racisme d'État? Il faut arrêter le délire. Je trouve les Français très résilients en réalité, parce que on est un des rares pays qui accepte de se faire insulter comme ça, qui acceptera demain que si elle est vraiment menacée, elle soit sous protection policière avec nos impôts, etc. Et c'est normal. En fait, c'est quand même un des rares endroits qui a la passion de se laisser insulter et qui ne réagit pas, en fait. Donc moi, je trouve que cette manière de se victimiser est à grand renfort d'articles dans la presse de gauche où tout à coup, pour le coup, il y a une armée qui s'est levée pour la défendre.
Ah oui, absolument.
Grand bien lui fasse. Mais c'est quand même, assez amusant, ce réflexe de tout excuser dès que tu dis du mal de la France, de tout excuser en permanence si c'est dit dans ce sens-là. Moi, je trouve ça insupportable.
Et en plus, Philippe Guibert, pays de racistes dégénérés, cela englobe toute la population française. Ça veut dire que toute la population française... Et oui, et les musulmans compris. Toute la population française comme des racistes dégénérés. Voilà ce que ça veut dire.
Oui, oui. Enfin, je ne pense pas qu'elle faisait référence à ça.
Sans doute pas. Mais si on s'en tient à la sémantique du texte, c'est de ça dont il s'agit. C'est tout le pays, c'est toute la population.
Une fois qu'on a condamné les menaces, les insultes racistes, ou les menaces, comme tu le disais, pour toute personne, quelle qu'elle soit, effectivement, il faut se poser une question. Et moi, ce qui m'a choqué, tu as fait allusion, c'est qu'elle a eu des tas de soutiens, et que dans ces soutiens, des grandes consciences vigilantes contre le racisme en France, il n'y en a pas une qui a été capable de dire, mais son tweet de départ était très insultant pour la France en général, mais en particulier pour la Fédération française de football, qui a pris cette décision. Et je trouve que son président est bien tolérant.
Au nom de la laïcité, s'il a appliqué cette règle-là, parce qu'on n'en parlait pas encore la saison dernière ou il y a quelques années, c'est au nom de la laïcité.
Oui. C'est compliqué, parce que c'est une application de la décision de la FFF concernant la problématique des collants, qui elle-même, il y a des joueurs de foot qui utilisent des collants en dehors de tout. Mais le fait est qu'il y a de l'entrisme dans le football, dans le sport en général, le football en particulier, et que donc la FFF est obligée de faire respecter avec une certaine fermeté et à très juste titre le fait qu'on laisse, comme on disait avant, sans que ça suscite de débat, que dans le sport, on laisse au vestiaire ses opinions politiques, religieuses et toute opinion, et qu'on joue au foot et qu'on n'embête personne avec ses opinions religieuses ou politiques. Et donc la FFF fait respecter ça. Et donc personne n'a fait remarquer qu'elle insultait gravement les instances de la FFF. Ça ne dérange pas.
La Fédé,
ça ne dérange pas, visiblement, hein, les bonnes consciences. Moi, je veux bien condamner, et je condamne aussi les attaques dont elle a été victime. Mais franchement, ce qu'elle avait dit était honteux, effectivement.
On marque une pause. On se retrouve avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune. Deuxième partie de cette dispute. Dans quelques instants, on fera un petit tour par l'information également sur CNews. À tout de suite. Retour sur le plateau de Ça se dispute, la deuxième partie avec Philippe Guibert, Geoffroy Lejeune, nos thématiques dans quelques instants. Mais d'abord, Point Info avec Simon Guilin. Bonsoir.
Bonsoir, cher Lionel, et bonsoir à tous. Un jeune homme de 18 ans a été tué à l'arme blanche aujourd'hui dans un quartier populaire de Bordeaux. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet. Les circonstances de ce drame restent à déterminer. Il pourrait s'agir d'une rixe, selon une source proche de l'enquête. Aucune interpellation n'a donc eu lieu pour le moment. Réaction du Kremlin aux propos d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Moscou juge les propos du président français très dangereux. Le porte-parole de la présidence russe, Dimitri Peskov, a ajouté que la Russie allait poursuivre ses opérations militaires jusqu'à l'accomplissement de tous les objectifs fixés. Et puis le Hamas dit étudier avec un esprit positif la proposition de trêve dans la bande de Gaza. Israël a proposé une trêve de 40 jours dans les combats, associée donc à une libération des otages toujours détenus dans l'enclave palestinienne. Le mouvement terroriste maintient toutefois ses exigences et réclame un cessez-le-feu permanent, Lionel.
Merci Simon Guilin. L'information revient à 22h en direct sur CNews. L'actualité étrangère, nous en parlons dans quelques instants avec Philippe Guibert et Geoffroy Lejeune. Mais d'abord, on reste en France avec le gouvernement qui a présenté son projet de loi logement aujourd'hui, qui fait face à une crise historique. Guillaume Kasbarian, le ministre délégué porteur de ce plan, était l'invité de CNews et d'Europe 1 ce matin. Et sur le cas précis des logements sociaux, des HLM, il martèle que la préférence nationale, comme le préconise le Rassemblement national notamment, n'est pas une solution. Écoutez.
Moi, je ne suis pas favorable à la priorité nationale sur le logement social, pour une raison assez simple, une question d'efficacité. Vous avez deux infirmières dans un hôpital. Vous en avez, les deux travaillent, sont régulières. L'une est française, l'autre est étrangère. Je ne vois pas pourquoi j'interdirais à celle qui est étrangère et qui est pourtant travailleuse, qui paye ses impôts, qui est régulière, qui n'a jamais enfreint les règles de la République. Je ne vois pas pourquoi je dirais qu'entre deux infirmières, il y en a une qui a le droit de bénéficier d'un logement social et l'autre qui n'a pas le droit, parce qu'il y en aurait une qui serait française et l'autre qui serait étrangère, mais régulière, travailleuse et respectueuse.
C'est frappé du coin du bon sens, Philippe Guibert, mais à l'inverse, pourquoi on ne préférerait pas accorder des logements sociaux à des Français qui payent leurs impôts et qui travaillent également?
En fait, parce qu'il y a, philosophiquement, je suis hostile à la préférence nationale en matière sociale. Parce que, comme l'a dit le ministre, là je le rejoins, à droit égaux, devoirs égaux, à partir du moment où un étranger travaille, paye des impôts, paye des cotisations, il est soumis aux mêmes conditions que les nationaux. En revanche, il y a un problème, et qu'il ne faut pas se dissimuler, et là le gouvernement et les gouvernements précédents ont une responsabilité, et un problème qui ne fait qu'attiser... les difficultés, les tensions vis-à-vis des étrangers et vis-à-vis de l'immigration. C'est que les niveaux de revenus qui sont demandés pour avoir droit à un logement social font qu'il y a à peu près 50% de la population française, je crois que c'est le 6 chiffre qui est cité par Didier Lesky aussi justement de l'Office des migrations, qui auraient droit, qui peuvent avoir droit en fonction de leurs revenus aux logements sociaux. Évidemment qu'il n'y a pas 50% des Français et des étrangers qui peuvent accéder à ces logements sociaux. Et donc après, il y a une compétition qui se fait entre les populations qui y ont droit et qui favorise les plus bas revenus. Et donc dans ce cadre-là, un certain nombre de nationaux peuvent avoir des aigreurs et du ressentiment en se disant finalement on n'a pas accès au logement social alors qu'on devrait rentrer dans les catégories. Et donc il y a un manque, il y a deux problèmes. C'est, d'une part, je pense, autant les slogans zéro immigration me paraît lunaire, impossible, voire même dangereux, autant aujourd'hui 500 000 je crois à peu près par an si on compte les clandestins, ça me paraît trop, en termes trop d'immigration en termes de capacité d'intégration, de capacité d'accueil et d'intégration dans notre pays. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra diminuer ce chiffre. Puis d'autre part, et j'espère que le gouvernement y travaille, il n'y a pas assez de logements sociaux et que les conditions pour en construire sont soit trop coûteuses, soit trop compliquées, et qui fait qu'entre cette offre et cette demande, une demande trop importante... Et
2,6 millions en attente, Philippe Guibert.
Voilà, c'est énorme, c'est considérable.
De foyers qui attendent un logement social ou un
salaire. Ce décalage-là, il faudra le résoudre, parce que ça attise beaucoup, encore une fois, le ressentiment à l'intérieur des populations. Tous les gens de terrain le disent, et je trouve ça tout à fait dommageable, et ça laisse beaucoup de gens sur le bas-côté.
Ouais, et dans ce cas-là, justement, Geoffroy Lejeune, avec près donc 3 millions de foyers qui attendent un logement social et qui pourraient effectivement correspondre au profil pour en bénéficier, ne faut-il pas, à un moment donné, faire des choix et peut-être s'orienter vers une préférence nationale, sans pour autant stigmatiser les étrangers, parce que c'est cela aussi qui est dit à travers les propos, éviter de les stigmatiser. Non, mais c'est ça qui est dit à travers les propos du ministre, évidemment.
En fait, si je peux me permettre, je vais essayer de réhabiliter le terme stigmatisé, qui n'est perçu que de manière négative pour les raisons qu'on connaît. Mais en fait, la stigmatisation, c'est choisir entre l'une ou l'autre personne, étymologiquement, enfin c'est ça que ça veut dire à l'origine. Et moi je pense qu'il faut choisir les Français. Et donc je réponds oui à votre question, Lionel. Ce qui est intéressant, c'est que Philippe a fait la thèse et l'antithèse. C'est-à-dire que tu dis une chose...
Parce que je viens de Sciences Po, en cette manière.
Et c'est ça que j'allais dire. Je vais faire la synthèse, comme ça on se rend
compte. Mais la bonne version de Sciences Po, pas celle d'aujourd'hui, on est d'accord.
Et non mais, comment dire, je pense que tu ne peux pas dire à la fois que tu es opposé philosophiquement au principe de la préférence nationale et en même temps qu'on ne peut pas continuer dans ce système-là avec une immigration aussi importante. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est la question qui s'est posée au Danemark. C'est pour la raison pour laquelle ce sont des sociaux-démocrates qui ont drastiquement limité l'immigration. Ils ont présenté la chose comme ça à la population danoise en disant, en fait, il faut choisir entre l'État-providence et l'immigration. On ne peut pas avoir les deux, en fait. Si tu as l'État-providence qui, sans préférence nationale, subventionne, finance, etc., surtout en matière sociale, tu dis j'y suis opposé en matière sociale, moi je pense que c'est surtout en matière sociale que c'est important, on ne peut pas avoir autant d'immigrés. Donc on garde l'État-providence et on arrête l'immigration, ou alors on arrête l'État-providence et on peut continuer avec l'immigration. C'est la question qu'ils se sont posée. Ils ont décidé, eux, de garder l'État-providence et d'arrêter l'immigration, avec les résultats qu'on connaît en matière de politique migratoire. Et je vais dire pourquoi je défends la préférence nationale. Je pense que, en fait, si tu veux faire une communauté nationale, il faut qu'il y ait une discrimination, pas au sens péjoratif du terme, mais une différence entre le français et l'étranger. Il faut que tu n'aies pas...
Il y en a une.
Pardon ?
Il y en a une, elle est politique.
Il y a le droit de vote, oui. Et en fait...
La deuxième est sur la fonction publique, ce qui est normal dans tous les pays.
Et si tu n'as pas de préférence nationale pour les prestations sociales, c'est toute une partie. En fait, ça ne s'appelle pas la solidarité nationale pour rien. On cotise, on décide, nous, de cotiser pour s'acheter un système de santé où on sera soigné quand on aura des problèmes, etc. Et c'est très bien.
Oui, mais tu viens de le dire, justement, Geoffroy.
Si, oui, mais en fait...
Je te laisse terminer.
Bah, en fait, je vais essayer de terminer d'une phrase. C'est normal qu'il prend évidemment l'exemple de l'immigré régulière qui paye des impôts, etc., etc.
Et qui est quand même la majorité.
Oui, mais bien sûr. Mais
loin de beaucoup.
Oui, mais combien sont-ils sur les 2,6 millions qui sont en attente ?
Je ne sais pas. Mais
si tu vas aux États-Unis ou au Maghreb, tu n'as pas les mêmes droits que les autres. Et ça te paraît normal.
Oui, mais...
Philippe Guibert.
On a construit un pays, la République française, où on considère qu'à égalité de droits, il y a égalité de droits et égalité de devoirs. Et donc l'exemple que donne le ministre, qui est quand même l'exemple majoritaire chez les étrangers, c'est-à-dire quelqu'un qui est évidemment en situation régulière, quelqu'un qui travaille, qui a une activité, et donc tu l'as dit toi-même, qui cotise. À partir du moment où tu cotises, tu payes des impôts, l'étranger en situation régulière qui bosse, qui a des revenus, il paye des impôts. Hein. À partir du moment où tu payes des cotisations sociales.
Ce qui nous coûte cher, c'est, Emmanuel Macron l'avait dit d'ailleurs dans une interview il y a quelques années, c'est les gens qui viennent faire du tourisme social. C'était aussi un terme employé par Gérard Collomb quand il était ministre de l'Intérieur. C'est ça ce qu'on vit en France. C'est les gens qui viennent se refaire les dents.
Moi, je te dis,
c'est ça l'histoire.
Je te dis encore une fois, je pense profondément, et tu connais mes convictions et d'où je viens politiquement, je pense profondément qu'on a trop d'immigration par rapport à nos capacités d'accueil. Alors, je répète, immigration zéro, pour moi, c'est un non-sens. Mais, à l'évidence, je suis convaincu qu'il faut diminuer. Et là, pour reprendre ton exemple du Danemark, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on renonce à l'État-providence, même s'il y a des réformes à faire sur l'État-providence, sur les retraites et sur pas mal de choses, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas dire on accueille des gens qu'on n'est pas capable d'accueillir. C'est vrai sur le logement social, ça va être vrai sur un certain nombre de dérapages de prestations, etc., etc. C'est vrai sur les conditions d'accueil. Et donc, si on n'est pas capable d'accueillir les gens, on ne sait pas les intégrer. Déjà qu'on a beaucoup de mal avec le système actuel à intégrer une partie de l'immigration, pas toutes les migrations. Déjà qu'on a beaucoup de mal. À un moment donné, il faut quand même être lucide et arrêter de se raconter des histoires, surtout de la part de gens qui ensuite viennent se plaindre que les Français réagissent pas très bien à l'immigration ou à une partie de l'immigration et finissent par avoir des votes qu'ils détestent. Ok, mais alors à ce moment-là, faut être cohérent. Donc, il y a un vrai problème, et en particulier sur le logement social. Et je pense que plutôt que d'utiliser une philosophie que je trouve pernicieuse, que je trouve dangereuse, qui est, c'est pas une stigmatisation, c'est une différence fondamentale. Si des personnes payent la même chose, enfin cotisent, payent des impôts, n'ont pas les mêmes droits que d'autres personnes qui payent des impôts et les mêmes cotisations sociales, moi je suis extrêmement choqué.
Et on rentrerait peut-être dans une politique de quotas. Qui choisir? Quels critères? Quel critère de sélection?
Mais
ça,
on est bien d'accord.
C'est extrêmement complexe. Non, mais je partage votre point de vue sur cette thématique. Autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous, on va garder un petit peu de temps pour cela, parce que c'est assez intéressant, c'est Donald Trump qui s'exprime. Alors évidemment, il est souvent haut en couleur, il a le sens du verbe, et toujours avec beaucoup, très raffiné, c'est le cas de le dire. Vous allez l'entendre dans quelques instants avec cette mise en garde donc de Donald Trump contre les conséquences de l'immigration. Lors d'un meeting dans le Wisconsin, il a dénoncé ce qui se passe en Europe à cause de l'islamisation. Il affirme que Paris et Londres ne sont plus reconnaissable que Paris et Londres ont tout simplement ouvert la porte au djihad.
Nous avons vu ce qu'il s'est passé lorsque l'Europe a ouvert ses portes au djihad. Regardez Paris, regardez Londres, ils ne sont plus reconnaissables. Cela va m'attirer beaucoup d'ennuis avec les gens de Paris et les gens de Londres. Mais vous savez quoi? C'est un fait. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire ici et je ne laisserai jamais cela arriver aux États-Unis d'Amérique.
Alors, est-ce que ce sont des propos spécieux ou est-ce qu'il y a une part de vrai tout de même dans ce qui est dit par Donald Trump?
Bah, malheureusement, il a raison, je pense. C'est-à-dire que, il dit on a ouvert la porte au djihad. En fait, on a laissé entrer des gens qui sont venus avec leur idéologie, et leur idéologie, c'est le djihad. Je pense que c'est très compliqué de le contester. Les exemples sont par ailleurs bien choisis. Londres, souvenez-vous, les manifestations après le 7 octobre, elles faisaient froid dans le dos, vraiment. Et on a les mêmes gens en France, en tout cas, et on a des gens qui leur ressemblent. Donald Trump, il faut faire attention parce qu'il dit en effet de manière pas très raffinée des choses qui font sursauter ou hurler au moment où il les dit et qui s'avèrent finalement pas si fausse que ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on s'était moqué de la chaîne Fox News, je crois, qui parlait des no-go zones dans Paris en expliquant que non, pas du tout, etc. Maintenant, on sait qu'il y a des no-go zones dans Paris. Lui avait dit que s'il avait été au Bataclan et qu'il avait été armé, il n'y aurait pas eu autant de morts. Je suis désolé de dire que, en fait, ça fait partie de l'équation.
Et si la population était armée, si le port d'armes était possible, voilà, c'est le grand débat du port d'armes. C'est ce qu'il avait dit à l'époque.
En pleine série La Fièvre, hein. Vous
l'avez regardé. Oui, bien sûr, sur la série de La Fièvre.
Moi, je suis pas du tout un fanatique du port d'armes, hein, du tout. Mais par contre, force est de constater que quand il le dit avec la dose de provocation que ça comporte, il met le doigt sur quelque chose de réel. À l'époque aussi, on disait qu'il n'y avait pas de terroristes parmi les migrants. Et en fait, les terroristes du Bataclan, et c'est pour ça que je parlais du Bataclan, ils étaient venus par les filières d'immigration au moment de la crise syrienne. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Il ne faut pas trop se moquer de lui.
Non, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a passé ce sonore. J'ai aussi cédé la parole, Philippe Guibert, mais oui. Souvenez-vous que Trump avait déjà pointé la politique migratoire en Europe en 2016. Il n'était pas encore président des États-Unis. Et il prétendait, je le cite, que vivre à Bruxelles, c'était comme vivre dans un trou à rats, car il y a l'absence d'assimilation de la population musulmane. Voilà ce qu'avait dit Donald Trump en 2016.
Bon, alors il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de sérier. D'abord que Donald Trump nous donne des leçons en tant qu'Américain sur la politique migratoire, alors qu'il était au pouvoir pendant 4 ans, qu'il a prétendu stopper l'immigration dans son pays, construire un mur qu'il n'a jamais évidemment construit, etc., etc. Il n'a pas réussi particulièrement plus que les autres à stopper l'immigration dans son pays. Il est gentil de venir donner les leçons aux Européens. Premier point.
La différence, c'est qu'on n'a pas essayé, quoi.
Ouais. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas très bien marché. Deuxième point, sur les histoires de vente d'armes. Alors, je fais radicalement contre. D'ailleurs, quel succès aux États-Unis où les gens s'entretuent assez régulièrement.
Il y a des tueries très
régulièrement. Bon, si on veut passer à ça, moi, alors là, pour le coup, il est possible que je m'exile, hein, franchement. Hein, très franchement, là, je...
Non, mais avec moi, d'être tranquille, vraiment, je suis pas un militant de ça du tout.
Non, mais je comprends. Troisièmement, sur le fond, évidemment que dans l'immigration qui arrive en Europe et en France en particulier, mais comme dans d'autres pays européens, il y a une part d'immigration, de culture ou de pratiques musulmanes, dont une partie, pas l'intégralité, mais dont une partie peut avoir une idéologie très influencée par les différentes formes d'islamisme qui peuvent exister dans des pays de culture ou de civilisation musulmane. C'est une évidence. S'il s'agit de dire ça, bah, c'est une évidence. Notre échec, c'est peut-être d'en avoir tardé à en prendre conscience. Et deuxièmement, de se dire que face à des personnes, encore une fois, ce n'est qu'une partie de l'immigration, hein, face à des personnes qui arrivent avec d'autres cultures, d'autres valeurs, qui sont en opposition avec les nôtres, sur plein de sujets de liberté, d'égalité collective et individuelle en particulier, eh ben, il fallait faire un effort bien plus important pour avoir une chance de réussir de l'intégration et de l'assimilation. Ça, je crois qu'on ne l'a pas fait. Ça, c'est notre responsabilité. Mais j'avoue que ce n'est pas Donald Trump que j'aime beaucoup recevoir.
Mais il semble, Philippe Guibert, que Donald Trump...
C'est moi, une réaction
un peu allergique. Épidermique, je peux comprendre. Mais
c'est ça le terme.
Comme l'a très bien décrit Geoffroy Lejeune, il y a parfois du bon sens dans ce qu'il dit de manière assez brutale, en effet.
C'est-à-dire qu'il dit tellement gros qu'il peut toujours y avoir un petit bout
bien
de...
Bien sûr. Quoi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est
quand vous
c'est
dites
spécieux.
Des énormités, il y a toujours un petit bout
en effet. Mais ce qu'il dit, ça a été dit il y a quelques jours par le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. On ne peut pas dire que le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis soit islamophobe ou anti-musulman. Ce qu'on peut peut-être accuser, on peut peut-être accuser Donald Trump de ce phénomène-là. Et il a dit la chose suivante, il y aura, et c'est déjà le cas aujourd'hui, dans les prochaines années, plus de terroristes islamistes sur le sol européen que dans les pays arabes.
Ouais, alors là, il s'avance beaucoup quand même, parce que...
Ouais, mais parce qu'il le dit depuis des années, et que ça tend à se confirmer. C'est pas n'importe qui le dit.
On parle depuis 7
c'est
mois.
C'est pas Donald Trump.
Non, mais d'accord, mais enfin, plus que dans les pays arabes ou que dans les régions.
Si je puis me permettre d'aller.
On sort depuis 7 mois, enfin, on sort à peine, on n'est pas sorti de l'attentat monstrueux du 7 octobre en Israël. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, hein. Ça me paraît difficile.
Mais parce qu'en
revanche, il y a un problème, oui, bien sûr.
Mais parce qu'en fait, ces pays-là, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite maintenant,
Qatar,
Maroc, Algérie, ces pays-là ont une politique très dur contre les islamistes.
Absolument.
Ils font 10 fois ce qu'on fait. Mais bien sûr.
Pour l'Algérie, je crois que c'est plus compliqué.
Sur la sécurité en général, sur le terrorisme, vous avez raison, mais sur l'insécurité en général, ils font 10 fois plus.
On coopère, nous, avec eux, en matière de terrorisme, en fait.
Oui, ça
donc,
c'est vrai.
Donc c'est pour ça qu'il dit ça, ce ministre, et je pense qu'il a raison de pointer le phénomène. Tu parlais tout à l'heure de la série La Fièvre à propos des armes. Moi, je vais parler de la série Fauda à propos
une formidable série.
Du Moyen-Orient, qui est exceptionnelle.
Qui est exceptionnelle.
Dans la dernière saison, et moi, c'est ça qui m'a fait froid dans le dos. Il tourne certains passages à Bruxelles. Ça se passe à Bruxelles. C'est une série qui voit les forces spéciales israéliennes affronter les.
Il y a eu des attentats gravissimes à Bruxelles, comme il y en a eu à Paris et ailleurs en France.
Dans la série, dans la dernière saison, ils ont compris que pour les besoins de crédibilité du scénario, il fallait qu'il y ait des scènes qui se passent en Europe et principalement à Bruxelles, parce que c'était devenu une base arrière du terrorisme, en fait.
Ouais. Non, mais tu as raison. Évidemment qu'on a un problème de terrorisme et d'islamisme et qu'il n'est absolument pas réglé, que la menace terroriste, elle est forte. Enfin, je pense que Gérald Darmanin le répète de façon assez régulière. On a été marqué par des attentats, même si c'était des attentats apparemment solitaires, il n'y a encore pas si longtemps que ça. On a eu des profs assassinés.
Bien sûr.
Et même un touriste assassiné en plein Paris, tout près de la Tour Eiffel.
Donc, et c'est à ça que fait allusion Donald Trump. Évidemment, à des fins électoralistes, il est en campagne, on le comprend, mais il appuie là où ça fait mal, en effet. Il nous reste 3 minutes 30. J'aimerais juste qu'on dise un petit mot sur la guerre en Ukraine, et notamment les déclarations d'Emmanuel Macron. Après avoir répété que l'envoi de troupes au sol en Ukraine était probable, la Russie lui a répondu, et notamment le porte-parole du Kremlin a qualifié de tendance très dangereuse les propos du président français. Très dangereuse, le terme est utilisé par la Russie. Pourquoi en remettre une couche de la part d'Emmanuel Macron? Pourquoi en remettre une couche? Quel intérêt?
C'est une très bonne question. En fait, comme ça n'a pas commencé aujourd'hui ni cette semaine, ça fait maintenant presque 2 mois que le président de la République met ce sujet sur la table. Moi, je me demande ce que ça nous a apporté. C'est qu'il y a eu une escalade verbale à un moment donné quand Macron, quand le président français a commencé à parler de ça. Il y a eu une escalade verbale qui n'a pas spécialement aidé les Ukrainiens, qui n'a pas spécialement désarmé la Russie, qui, je pense, avait une vocation à jouer un rôle dans le débat public français à l'occasion des élections européennes pour remettre ce sujet devant. Et ça n'a pas marché. Je ne vois pas ce qu'Emmanuel Macron a gagné pour l'instant dans cette histoire. Je n'ai pas l'impression que ça ait spécialement établi un rapport de force avec, avec la Russie qui soit en notre faveur. Et en plus, je pense que ça décrédibilise notre parole, pas juste celle d'Emmanuel Macron, la parole de la France. On est dans la même séquence où il explique qu'on va faire une Europe de la défense, qu'on va peut-être partager l'arme nucléaire avec d'autres pays et, au même, et en même temps envoyer des troupes au sol. Le ministre de la Défense français dit non, attendez, on n'en est pas là. Ça commence à devenir très, très, très compliqué de voir une forme de cohérence.
Est-ce que la voix d'Emmanuel Macron compte véritablement en Europe et dans le monde diplomatique?
En tout cas, dans l'Europe, elle compte, ouais. Ouais. Je suis d'accord avec le bilan politique que tu fais de cette déclaration. Je partage complètement ce que tu as dit. Mais, il y a un mais. Il y a un mais parce que, on va revenir à Donald Trump, dans l'hypothèse où il est élu, dans l'hypothèse où il diminue le soutien à l'Ukraine, la question va se poser, pas simplement à la France, mais à tous les pays européens. Parce que si le soutien américain s'essouffle ou s'arrête, eh ben, les Ukrainiens, ils tiendront pas face aux Russes. Il ne faut pas se raconter l'histoire. On n'est pas en capacité, nous, Européens, là, comme ça, dans les 6 mois, dans l'année qui vient, parce que maintenant, l'élection américaine, c'est échéance janvier prochain, donc c'est dans 8 mois, 7 mois. On n'est pas en capacité de remplacer les Américains. Et donc, si l'Ukraine cède, si à un moment donné, la Russie prend vraiment le contrôle de l'Ukraine, je ne parle pas de la situation actuelle, du statu quo actuel, mais si vraiment ça craque, si le pays s'effondre, la question d'intervenir s'opposera à tous les pays européens, parce que je ne pense pas que les pays européens puissent se permettre de laisser l'Ukraine tomber avec toutes les conséquences en déflagration sur toute l'Europe centrale, donc sur l'Union européenne. L'enjeu, ce n'est pas les chars russes à Paris, ça c'est une blague, ça n'a pas de sens. Mais en revanche, la déstabilisation de l'Europe centrale, donc de l'Union européenne, ça c'est un vrai sujet.
Il ne fallait pas insulter ceux qui, au mois de septembre dernier, comme par exemple Nicolas Sarkozy, disaient qu'il fallait négocier avec Poutine et que ça s'était déjà produit. La Géorgie, ce n'était pas il y a 100 ans, c'était en 2008.
La différence, je suis d'accord, mais la différence, c'est que pour avoir une négociation, une petite chance d'avoir une négociation avec Poutine, il faut être en rapport de force favorable. Oui, si tu es en rapport de force défavorable, tu es mort.
Je suis désolé, la question des armes, des troupes au sol, des troupes françaises au sol, je pense, nous a été très défavorable dans la séquence. Mais le niveau d'agressivité est monté dans des proportions hallucinantes. Ouais. Et encore une fois, ceux qui disaient Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, etc., qui disaient qu'il fallait arrêter de faire cette course folle à la guerre, se sont quand même fait insulter il y a 6 mois. Aujourd'hui, moi, je regrette qu'on ne les ait pas écoutés.
Merci de nous avoir accompagnés. C'est la fin de Ça se dispute. Toujours une excellente émission et je vous félicite pour cela. Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert, merci.
C'est vous, Lionel.
Non, mais c'est vous. Moi, je ne suis là juste pour vous accompagner, pour faire quelques passes décisives de temps en temps, mais vous marquez tous les buts.
Passes décisives sont très essentielles au foot. Hein.
N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais enfin, on se souvient souvent du nom du buteur et pas de celui qui fait la passe décisive. C'est bien pour cela que vous êtes là aussi. Olivier de Carenfleck, dans quelques instants, autre passeur décisif. C'est Soir Info sur CNews. Merci de nous avoir accompagnés.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.